Qu'est-ce que c'est bon,
mais
ça.
Mais qu'est-ce que c'est bon.
Casser l'œuf en deux, de voir couler ce jaune, c'est de l'amour.
En fin de bouche, on est cueilli par une petite acidité.
Europe 1, 11h30.
Ça va, c'est la saison, ça.
Oui, ça, c'est bien.
J'ai eu chaud aux fesses. Hein.
La table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Amis de la table et de la fourchette, bonjour. Bien manger et comprendre ce que nous mangeons, voilà le programme. Hein. Jusqu'à midi et demi. C'est le printemps, alors l'occasion de pratiquer une belle cuisine acidulée. On va se mettre au vinaigre, qu'il soit d'Orléans ou de Modène. Il est essentiel, le vinaigre. Alors comment vont nos apprentis cuisiniers au fait? Eh bien, on va prendre de leurs nouvelles et Jean-Luc Petit-Renaud nous racontera une belle histoire. Sa parole est rare depuis un an, c'est l'un de nos plus grands chefs cuisiniers. Alain Ducasse sera des nôtres juste avant midi. C'est le moment de vous présenter mes bons vivants attablés. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Voilà pourquoi elle nous fait partager le meilleur de la gastronomie chaque dimanche. Dans le journal du dimanche, c'est Charlotte Langrand. Bonjour Charlotte.
Bonjour Laurent, bonjour Olivier.
Avec une nouvelle coupe de cheveux printanière.
C'est le printemps.
Bravo,
il
ça faut, vous va très bien. On vous félicite. Vous pourrez aller voir sur le groupe Facebook des bons vivants la
je
jolie frimousse de Charlotte.
Bien sûr.
Avec lui, les bouteilles de vin n'ont pas le temps de finir en vinaigre. Ah il les boit jusqu'à la lie. C'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour Laurent, bonjour Charlotte.
Bonjour.
Bonjour tout le monde. Pas de coupe de cheveux printanière.
Non mais ça vous va bien, vous, ouais. vous avez la ligne comme on
bonne
dit.
Bonne énergie.
Et Alain Ducasse, hein, je vous l'ai dit, nous rejoint vers 11h45. On a plein de questions à lui poser. Et je voudrais qu'on dédie cette émission à Bertrand Tavernier, qui était un fin gourmet, un bon vivant et qui aimait la bonne chair.
Donnez-vous la peine d'entrer et que la fête commence.
Et oui, que la fête commence, un de ses chefs-d'œuvre avec Philippe Noiret et Jean Rochefort. Il va les retrouver là-haut et on leur souhaite de commencer une belle fiesta. Alors avant d'aller faire un tour sur un marché à Lyon, quel est votre goût de la semaine? Je vous pose la question à la maison, réfléchissez, en écoutant le podcast, en voiture. Quel est votre goût de la semaine, Charlotte?
Alors moi, c'est le menu du potager à l'assiette de la chef Cybèle Hidelot qui est à la table de Cybèle à Boulogne-Billancourt, à côté d'ici. Franchement, je pourrais vous parler tout le menu parce que vraiment, c'est super. C'est vraiment super bon, c'est frais. Ça vient du potager qu'elle a près de Gambet, dans les Yvelines. Donc, c'est vraiment très frais et de saison. Je voulais vous parler de cette entrée de tagliatelle d'asperges blanches et de flan au Saint-Jacques fumé et ses petits croutons. Si vous voulez, c'est un croisement entre les premières asperges blanches un peu lactées comme ça et les dernières Saint-Jacques.
Crues les asperges blanches alors en
oui,
tagliatelle
quasi, oui, oui, vraiment
parce
quasiment.
Parce que ça se mange cru, on a tendance à l'oublier. Mais
oui, et coupé très fine comme ça. Bon. Franchement, c'est un plat absolument fantastique qu'on n'a pas à réchauffer. On le sort 10 minutes avant dégustation du réfrigérateur et c'est fantastique. C'est la table de Cybèle à Boulogne.
Olivier, votre goût de la semaine.
C'est un livre, c'est le livre d'une de nos consoeurs qui s'appelle Laure Gasparotto, qui est critique de vin au journal Le Monde et qui a, comme beaucoup de journalistes du monde du vin, réalisé un rêve. Et ce rêve, c'est de devenir un jour vigneron, de passer le pas, comme on dit. Alors, c'est une aventure qui a duré 5 ans, qu'elle raconte dans un livre qui s'appelle Vigneronne, quitter Paris, changer de vie, créer son vin. C'est intéressant comme témoignage. On apprend ce que sont les difficultés, ce que sont les joies,
ce que sont les contraintes. C'est un fantasme pour beaucoup.
Eh oui.
Ça vous donne des idées?
Alors, je vais vous dire non. Moi, je pense que je ne sauterai jamais le pas. Mais en tout cas, ce livre se lit admirablement. C'est bien écrit. C'est un joli témoignage. Je pense que c'est à lire de manière indispensable avant éventuellement de tenter le pari.
Vigneronne, ça s'appelle.
Oui.
Mon goût de la semaine, c'est un plat de côte que j'ai cuit avec du vin rouge, un vin du Languedoc et beaucoup d'harissa que j'avais commandé lors d'un couscous commandé à Nordine. Vous savez, du restaurant à mi-chemin qu'on a reçu ici. Il me restait de l'harissa.
Et avec ça devait déménager un peu votre truc.
Ouais, c'était bien. Oignon, plat de côte, vin rouge, 3 heures de cuisson. Le plat de côte, c'est un morceau que j'adore. Ça coûte moins de 10 euros le kilo. On peut en faire un pot-au-feu. On peut le confire comme je l'ai fait avec du vin rouge, de l'harissa, un petit peu de concentré de tomates et des oignons rouges. Mon fils a adoré. C'est un truc d'ado.
Un plat tout rouge en fait.
C'était tout rouge, exactement. Ouais. Voilà, rouge de plaisir.
Nordine, d'ailleurs, il vend tout un tas de mélanges d'épices, de cumin, le psar aussi tunisien, etc. C'est vraiment. Allez, on achète.
La vraie harissa, effectivement, avec des piments concassés, de l'ail et de l'huile d'olive. Mmh. Allez, on va au marché, c'est l'heure. Direction le marché de la Croix-Rousse à Lyon. Jean-Luc Boujon, vous savez, notre correspondant dans la capitale des Gaunes, il a fait le marché avec vous et il vous a demandé vos recettes printanières.
Alors, j'ai pris des radis, j'ai pris des poireaux. Il est tout petit. Voilà.
Vous allez faire avec ces petits
en
poireaux.
En vinaigrette, je vais les faire.
Il vaut mieux qu'ils soient petits?
Petits, oui. Oui, parce que les gros, c'est plus pour la soupe. Voyez. C'est plus craquant quand on les mange. Encore un petit peu.
Alors, des carottes.
des choux-fleurs, des navets, des petits oignons.
Vous allez les préparer comment ?
En pickles, genre confiture salée, oui. Des conserves qui se mangent à l'apéro ou en accompagnement.
On a pris des épinards sublimes, tout frais, tout beau.
Vous allez les préparer comment ?
Oh, la vapeur, tout simple, parce qu'ils sont déjà délicieux comme ça, il n'y a pas besoin de plus.
La belle courgette à nos là.
Du céleri rave, du céleri en branche. Alors le céleri rave, je l'adore parce que je le fais souvent en steak.
C'est-à-dire en steak ?
Des steaks, de belles tranches de céleri rave que je fais revenir juste avec un peu d'huile d'olive. C'est délicieux.
Des steaks végétaux avec du céleri rave. Eh bien, j'ai goûté ça, moi, figurez-vous, un steak comme ça de céleri rave qui avait été cuit au four en croûte de sel. On le taille en épaisseur et recouvert d'une sauce au poivre, comme un vrai steak. Et c'est délicieux. C'est vrai que ça fait de jolis trompe-l'œil, le céleri rave. Puis on a de la texture. Hein. Et les épinards, moi, j'adore. Ça y est, les épinards, ils sont là.
Petite tombée d'épinards, tout simplement roulés dans du beurre. Moi, je rajoute un tout petit peu de zeste d'orange par-dessus.
Ah,
terminé,
c'est bien. Oui. Et la gousse d'ail au bout de la fourchette pour les parfumer comme ça aussi. Et pour pas que la gousse d'ail se perde. Ça vous parle, Charlotte, ça ?
Ah oui, ça me parle. Mais c'est vrai que le marché, c'est ce qui vous donne toutes les idées pour la cuisine. Hein.
Mais oui, j'ai vu vos yeux ébahis, justement, devant ce printemps sur les étals.
Bah oui.
Vous avez raison, il faut bien ouvrir les yeux. Le printemps est là. Alors tiens, quelles sont les différences entre une bière artisanale et une bière industrielle? C'est vrai que nous sommes nombreux à apprécier la bière, avec modération, mais avec plaisir. Eh bien, on va faire un tour dans une microbrasserie du Nord, juste après ça. Merci d'être là, on est là jusqu'à midi et demi. Chaque samedi, hein, vous le savez, nous mettons en avant nos artisans du goût. Alors aujourd'hui, on lève nos pintes aux brasseurs indépendants de France, sur le point de disparaître il y a 20 ans. Eh bien oui, les microbrasseries pétillent maintenant dans toute la France. Et ça fait plaisir, Charlotte, de retrouver ces jolis métiers et ces belles bières partout en France.
Ah bah oui,
hein,
surtout que pendant très longtemps, quand même, ça a été un peu lissé. Hein, à mesure que la bière était de plus en plus industrielle, bah, le goût avec lui se lissait et se standardisait.
Standardisation, voilà. Du goût, bière industrielle,
donc,
oui.
Donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'elles reprennent du terroir, du caractère, même si c'est vraiment très, très local. Hein. Maintenant, il y en a vraiment des centaines dans toute la France. En moyenne, il y a une brasserie qui ouvre tous les jours en ce moment.
C'est génial.
Donc c'est quand même génial. C'est un mouvement qui a été initié dans les années 70 aux USA, hein, le mouvement des craft beers, comme on appelle. Hein, c'était les bières artisanales. En France, la nouvelle vague de brasseries, elle date des années 80. Les pionniers du mouvement artisanaux, hein, c'était la brasserie des Deux-Rivières à Morlaix, dans le Finistère, en 85, qui avait dévoilé une bière locale qui s'appelait leur Coref.
Depuis, voilà. Ils ont fait des petits, hein, Olivier. C'est vrai que la bière se démocratise, comme le dit
Charlotte. Je crois qu'il n'y a pas loin de 2000 microbrasseries aujourd'hui en France. C'est hallucinant. Il n'y a pas une ville qui n'a pas la sienne. Alors, qu'est-ce qu'on entend par microbrasserie ? C'est des brasseries dans lesquelles, en général, on produit à partir d'une centaine d'hectolitres par an, voire un tout petit peu plus. Mais c'est vraiment des productions très confidentielles. Je ne sais pas s'il y a un modèle économique réel pour toutes celles qui sont en train de s'ouvrir. Et on verra d'ici quelques années celles qui ont survécu. Mais ça permet d'avoir une diversité d'approches avec des goûts différents, des types de houblon, de malt, de riz, de maïs, des qualités d'eau, des levures. Il n'y a pas de notion vraiment de terroir, hein, sur une bière, il faut le savoir, puisque le houblon peut venir de n'importe où. Mais c'est vraiment non, c'est dans la fabrication, dans la petite touche personnelle qu'on va apporter.
Alors, on aime bien la bière dans le nord de la France. Eh bien, justement, on vous emmène dans les Hauts-de-France. Lionel Gougelot est allé voir Enguerrand Apte, qui est le chef brasseur de la brasserie du Goulot, à Roubaix, dans le Nord. Alors, ils font de la blonde, de l'ambrée, de la triple. On vous dira ce que c'est juste après. Leur truc à eux, c'est la bière locale vendue sur place. Explication au micro de Lionel Gougelot.
Il y a à peu près une centaine d'années, il y avait des brasseries dans chaque quartier. Même dans les plus petits villages, il y avait 4 à 5 brasseries pour quelques centaines d'habitants. Et donc nous, en fait, l'idée, c'était vraiment de réimplanter ce concept-là, d'avoir en fait sa brasserie comme on va chercher son pain au boulanger du coin. Et donc là, on va chercher sa bière au brasseur du coin. On a régulièrement aussi des gens qui s'arrêtent et qui se demandent ce qui se passe. Si on est en train de brasser et qu'on n'est pas trop occupé, on laisse les portes ouvertes. Comme ça, les gens peuvent venir jeter un coup d'œil, peuvent venir discuter un petit peu pendant qu'on travaille. Donc ça arrive de temps en temps, oui. Il y a énormément de gens qui, en fait, finalement, découvrent la bière petit à petit ou que très récemment. Il y a énormément de styles de bière comme les IPA, donc, qui sont des bières fortes amères, qu'on buvait pas il y a quelques années et que là, ce qui se développe énormément. Donc en fait, je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre et justement, diversifier un petit peu la gamme à l'occasion, ça peut permettre aux gens de découvrir des nouvelles choses.
Eh bien, c'est ça, c'est qu'on est loin de la standardisation du goût dont on parlait avec vous, Charlotte. Là, il y a du goût, il y a du caractère. Alors, il y a de la simple, simple fermentation, double, double fermentation, triple. C'est trois fois, donc triple fermentation.
Il y a beaucoup plus de malt. Hein. C'est des bières qui sont beaucoup plus rassasiantes, d'ailleurs, plus alcoolisées, souvent aussi, mais avec des textures, parfois, c'est costaud. Hein.
Alors, il y a une bière qui plaît beaucoup en ce moment. Elle est plutôt urbaine, peut-être, mais moi, j'adore. C'est la Hype. C'est une bière très houblonnée, avec une belle amertume, en fait. Hein.
Indian Pale Ale.
Voilà, exactement.
C'est ça. Ouais, exactement. Ben, c'est vrai que c'est une bière très à la mode. Moi, j'aime bien l'amertume dans la bière. Et c'est vrai que le style des IPA, des IPA, comme on dit, c'est des bières avec beaucoup de personnalité. Et on les trouve d'ailleurs aussi avec un certain nombre de produits différents, hein, comme de la châtaigne, comme de la noix, comme de la griotte, ou des choses comme ça.
Il y a beaucoup de houblon et de malt. Hein, et c'était une bière historique, la IPA, qui était fabriquée au Royaume-Uni. Elle était faite ainsi pour qu'elle puisse supporter le voyage vers l'Inde. C'est pour ça qu'on la boit beaucoup aussi en Inde. Alors, vous parliez effectivement d'aromatisation. Vous êtes une fan d'une bière corse.
Ah bah oui, moi, je dois avouer que je ne suis pas très bière à la base, mais parce que peut-être c'était standardisé. Donc voilà, je ne trouvais pas ça très, très intéressant. Et en fait, depuis que ces micros crus reviennent, j'aime de plus en plus ça. Et effectivement, moi, la châtaigne, j'aime beaucoup ça. J'aime la Corse. Et donc, je buvais surtout de la Pietra.
Mais oui, une bière de châtaigne.
Voilà, la brasserie, elle a été créée en 96 à la farine de châtaigne mélangée à du malt, ou la Ribella aussi, il y a aussi ça près de Patrimoine, en Haute-Corse, très très bonne aussi, et il y en a même une à l'Immortel.
Ah oui, absolument,
l'Immortel de Corse.
Exact.
Il y a plein
d'arômes. Ah oui, je l'ai dégusté celle-ci,
ouais.
Sur une belle amertume aussi.
Exactement.
Celle-là. Exactement. Vous parliez de la griotte, en Franche-Comté, on met effectivement de la griotte dans la bière.
Hein. Oui, les griottines, effectivement, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que la bière, parce qu'on parle beaucoup d'accord mets-vins, mais il y a aujourd'hui l'accord mets-bières qui se fait énormément. Il y a, je crois, un diplôme de biérologie qui est
absolument
un peu comme la sommellerie pour le vin, et de plus en plus, dans les restaurants, on a des accords qui sont proposés avec des bières, et ce jeu sur l'amertume est tout à fait intéressant pour des plats qui calent un peu sur le vin. On n'y arrive pas, avec la bière, ça marche.
Et sur le fromage aussi.
Sur le fromage, évidemment.
Sur le fromage, il y a très beaux accords de bière, justement, avec les bières plus ou moins houblonnées.
Il y en a un à Lille, dans le Nord, un chef qui est vraiment très expert là-dedans, c'est Florent Laden, hein, on le connaît, mais alors lui, il a plus d'une centaine de références, je crois, à son actif, à sa carte.
Prenez les endives, par exemple, les endives au jambon, c'est pas facile à accorder avec un vin, avec une bière, avec l'amertume d'une bière, ça marche très très bien.
Et par exemple, lui, il fait un accord avec une IPA du Mont-Salève aromatisée, tenez-vous bien, à l'ail. Et il la sert avec un agneau pomme de terre, par exemple. Donc, il va loin, lui.
Quel sujet, quand même. Hein, la bière, on peut en parler des heures.
Petite mousse.
Avec plaisir. Oui. On n'en fait pas de la bière, mais le vinaigre est essentiel en cuisine. Eh bien, on lui consacre notre dossier dans un instant. Mais avant, on va se demander, tiens, comment vont nos apprentis cuisiniers? Comment font-ils pour pratiquer en cette période de distanciation? Réponse juste après ça.
La table des bons vivants sur Europe 1.
Comment être apprenti cuisinier en 2021? Avec les restaurants fermés, les apprentis arrivent-ils à travailler? Et si oui, dans quelles conditions? Eh bien, on a enquêté à la table des bons vivants. Il y a de beaux exemples de résistance, vous allez entendre. Guy Savoie, tiens d'ailleurs, s'est exprimé la semaine dernière chez Anne-Elisabeth Lemoine dans l'émission C'est à vous sur France 5. Et il parlait de son inquiétude à propos de l'apprentissage.
J'ai créé une plateforme traiteur. Ça nous permet de garder des jeunes apprentis et stagiaires que l'on prépare pour rentrer dans la vie active, ça fait la deuxième année scolaire qui est perdue. Si cette transmission, elle est arrêtée comme ça pendant 2 ans, on va forcément le payer par un manque de collaborateurs dans les années qui viennent.
Et oui, c'est un métier qui s'apprend avec une transmission de gestes. Alors Olivier, on peut dire quand même qu'il y a des aides. Hein. Le gouvernement aide les apprentis.
Oui, on encourage l'apprentissage et je pense qu'on a raison puisqu'il y a un grand plan qui a été lancé en août 2020 avec des aides prévues de 5 000 euros pour un apprenti mineur jusqu'à 8 000 euros pour des apprentis qui ont plus de 18 ans. Ça encourage évidemment les patrons à embaucher, tant mieux. Bon après, évidemment, il y a le problème concret du travail.
Oui, mais parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a 100 000 jeunes en formation ou
monde,
en apprentissage, dans ce qu'on appelle les arts culinaires, les métiers de bouche, cuisinier, serveur, restaurateur, mais aussi manager, hôtelier. Hein. Et donc, ça fait presque plus de 26 000 contrats qui ont été quand même signés en 2020. Donc, il faut bien pallier la fermeture des restos. Donc, les écoles mettent surtout en place des cours en présentiel et des cours à distance, hein, un peu comme dans toutes les facs, les universités.
Alors, les restaurants sont fermés depuis le 30 octobre 2020. Le temps d'apprentissage a été court pour les jeunes, hein, qui suivent une formation par alternance. Alors, on en a rencontré quelques-uns, on en a auditionné quelques-uns, si je puis dire. Et il y a de beaux exemples de résistance, hein, c'est ce que je disais, Olivier.
Bah oui, on a eu le témoignage d'Océane, qui est en dernière année de brevet professionnel de cuisine au CFA de Belfort. Elle est en contrat dans un restaurant étoilé, hein, le Pot d'Étain, à Danjoutin depuis un an, mais le restaurant est fermé, elle est au chômage partiel et elle travaille un petit peu sur le click and collect, sur des petites opérations particulières comme la Saint-Valentin, il y a Pâques qui arrive. Elle pratique assez peu et elle le reconnaît, elle est très stressée pour son avenir parce que la cuisine, c'est comme le sport de haut niveau, hein. Il faut continuer.
Il faut pratiquer. Alors il y en a qui pratiquent dans la restauration collective, dans des cantines scolaires, dans des EHPAD. Il y a Lucas aussi, tiens, qu'on a entendu, qui est un étudiant bachelor à Ferrandi et qui lui est apprenti en cuisine avec Alain Pégouret, qui est un de nos grands chefs cuisiniers.
Sergent recruteur
à Paris sur l'île Saint-Louis. Alors qu'est-ce qu'il fait Lucas en cuisine avec Alain Pégouret? Eh bien il fait de jolis cabillauds étuvés à l'huile d'avocat et au jus de mélisse. Ils font des riz de veau caramélisés au vinaigre de pomme et tout ça dans une offre de click and collect. Donc c'est vrai que cette offre de résistance de click and collect, elle a permis aux chefs cuisiniers d'embaucher des apprentis aussi.
Hein. Oui, il faut espérer que d'ici les semaines qui viennent, tout le monde va retrouver le chemin des cuisines et que tout ça va entrer dans l'ordre. Mais il y a un peu de temps qui aurait été perdu, oui.
Alors, pas de cuisinier, on le dit, sans apprentissage. Pas de bon cuisinier sans bon maître d'apprentissage. Comment entretenir la flamme quand on est loin des fourneaux? Eh bien, le camarade Jean-Luc Petit-Renaud a des idées pour que nos apprentis ne se sentent pas isolés.
Eh bien, moi je repense à la famille, de manière à ce qu'ils ne restent pas tout seuls ou qu'ils feuillettent des livres dans leur coin. C'est quand même l'endroit où on peut continuer de faire valser les fourchettes et les couteaux si on est un petit peu courageux. On n'arrête pas de dire que les grands-parents sont dans leur coin, ne peuvent pas rencontrer les petits-enfants. Et si les petits-enfants se remettaient à faire de la cuisine, qu'est-ce que vous en pensez? Vous imaginez la tête de Pépé et la tête de Mémé si elles savaient que le petit-fils arrive pour rôtir la volaille? Ça serait quand même un pari gagné. Un poulet rôti, une pintade au chou. Et ça me fait penser à Paul Bocuse, une histoire qui s'était passée sous mes yeux. C'est un petit gamin qui partait en week-end chez ses parents. Les parents attendaient sur le parking sa sortie du restaurant du grand maître. Et Paul a demandé comment se passait l'enseignement avec lui. Il demandait ça à ses chefs. Et les chefs ont dit, ce petit est vraiment prometteur, il est sensationnel. Alors à ce moment-là, Paul a demandé au chef du garde-manger de lui apporter une volaille et donnez-la à ce petit. Avec son bel accent, donnez-la à ce petit, il va la cuisiner pour sa famille ce week-end et lundi, à la première heure, tu viendras me raconter comment ça s'est passé.
Ah ben bah voilà, ah oui. Entretenir la flamme encore et toujours et transmettre, c'est une belle histoire, mais c'est vrai, adressons-nous tiens, aux petits-enfants qui nous écoutent, cuisinez pour vos grands-parents une belle pintade au chou.
Et pas un grand chef qui ne vous dira pas qu'il n'a pas reçu des autres, qu'il n'a pas reçu de son mentor, de ses maîtres, de son apprentissage. C'est vraiment l'exemple type de la transmission.
Et ben on en parlera tout à l'heure avec Alain Ducasse, justement, pour qui la transmission est très importante, puisque je vous le redis, Alain Ducasse sera notre invité juste avant midi. C'est le printemps, l'occasion de pratiquer une belle cuisine acidulée à la maison. Alors pour cela, rien de tel que le vinaigre. Comment bien le choisir et l'utiliser? On en parle juste après ça, avec de beaux vinaigres artisanaux. Ça va titiller. Alors, il nous accompagne depuis plus de 5000 ans. Il sert à nettoyer, conserver, soigner et puis cuisiner surtout. Il donne, vous savez, la petite touche acidulée qui change un plat. Nous allons célébrer le vinaigre, c'est samedi matin. Et c'est vrai que depuis quelques dizaines d'années, le vinaigre artisanal s'est fait doubler par le vinaigre industriel. Alors, c'est quoi un bon vinaigre? Qui sont les artisans qui résistent? On a enquêté, et c'est vrai qu'on a du choix, hein, vinaigre de vin, de cidre, de modène, de riz, de malt, il y a même du vinaigre de canne à sucre. Charlotte et Olivier, tiens, c'est quoi votre vinaigre préféré, Charlotte?
Alors, moi, j'aimais bien jusqu'ici le vinaigre de cidre, mais alors j'ai découvert un vinaigre aux Arlots, un accompagnement de la mythique...
Les Arlots, c'est un restaurant à Paris.
À Paris, voilà. Avec sa mythique saucisse purée, il fait une tombée de cresson parfaite avec du vinaigre de Bagnols, enfin de Mozac en particulier, de la vinaigrerie artisanale Laguinelle. Et comme c'est un cépage de raisin blanc, et Il est peu acide, il est très fruité, il est très doux. Franchement, c'est un sublime
on fait de très beaux vinaigres du côté de Banyuls. Olivier.
Eh bien, écoutez, regardez, je vous ai mis un petit verre dedans. Oui. Et dedans, il y a un petit shot de vinaigre.
Voilà.
Et bien, vous savez quoi? Ça, c'est mon vinaigre. C'est, forcément, c'est mon vinaigre préféré, mais c'est moi qui le fais. Donc,
oui, il est bon.
Alors ça, c'est un vinaigre de vin blanc dans lequel il y a une proportion importante.
Il y a un petit côté oxydatif que j'aime.
Exactement,
moi, un petit
parce qu'il y a une
noix.
Proportion importante de vin jaune, enfin, ou en tout cas de savagnin. Et je trouve que ça donne au vinaigre une profondeur et une longueur en bouche vraiment très intéressante.
C'est votre vinaigre maison. Vous nous expliquerez tout à l'heure comment vous l'avez fait, les proportions et comment on réussit à faire son vinaigre. On va voir aussi le responsable de la maison, Martin Pourret, qui fait de très jolis vinaigres à Orléans. Alors avant, on a enquêté sur le groupe des bons vivants. On vous a demandé quel est votre vinaigre de prédilection sur Facebook. 60% d'entre vous répond le vinaigre balsamique, 25% le vinaigre de cidre, 10% le vinaigre de xérès et 6% seulement, alors ça c'est dingue, le vinaigre de vin rouge. Moi, perso, c'est mon préféré.
Mais probablement parce que les gens n'en goûtent pas souvent du bon.
C'est vrai, parce qu'il était standardisé, c'est ce qu'on disait tout
comme
à l'heure aussi, comme avec la bière. Et donc, du coup, on a des goûts, effectivement, qui disparaissent aussitôt en bouche. Il y a un autre vinaigre qui a aussi vos préférences sur le groupe Facebook des bons vivants, c'est le Melfort, qui est un vinaigre que je connais bien, qui est alsacien, avec du miel et des plantes. Donc, gros succès pour le balsamique.
Oui, c'est pas très étonnant, mais attention quand même. Le vinaigre balsamique, le vrai, l'authentique, il est extrêmement rare et extrêmement cher. Et très honnêtement, on n'en voit pas souvent.
Qu'est-ce que c'est un vinaigre artisanal au départ, alors?
Le vrai vinaigre balsamique, tel qu'il doit être fait dans les règles de l'art, quand il est en plus produit dans la région de Modène, en Italie, d'où il est originaire, même si on trouve des balsamiques français, par exemple, est un vinaigre qui n'est pas un vinaigre de vin, mais un vinaigre de mou de raisin.
Ouais, c'est ça.
Mou de raisin qui va fermenter, qui va travailler pendant des années. Il y a des vinaigres balsamiques qui ont plus de 150 ans d'âge, qui ont passé énormément de temps dans ces fameux fûts. Il va y avoir une évaporation aussi, une concentration naturelle des goûts, à ne pas confondre avec des vinaigres balsamiques industriels dans lesquels on trouve quoi? Du caramel.
C'est ça, oui, on rajoute du sucre.
C'est ça, c'est pas facile de s'y retrouver parce qu'il y a quand même une IGP, donc une indication géographique protégée du vinaigre balsamique de Modène depuis 2009. Mais en fait, il ne faut pas s'y fier parce qu'elle n'exige qu'un vieillissement de 60 jours et elle autorise donc cette fameuse coloration au caramel. L'IGP demande juste un minimum de 20% de mou de raisin, donc le reste étant du vinaigre de vin, et ne réglemente pas l'origine des raisins.
Donc qu'on se le dise, le vrai balsamique, c'est avec du mou de raisin. Alors en France, l'histoire du vinaigre est étroitement liée à l'histoire de la ville d'Orléans. À la grande époque, il y avait même plus de 500 vinaigriers à Orléans. Aujourd'hui, une seule maison fait du vinaigre artisanal, c'est la maison Martin Pourret. Et nous avons son responsable, David Marteron, au téléphone. Bonjour David.
Bonjour Laurent.
Alors pourquoi Orléans est-elle si intimement liée au vinaigre? Racontez-nous.
Alors en fait, l'histoire du vinaigre d'Orléans, c'est intimement lié à la Loire en fait. Parce que dès la Renaissance, tous les vins descendaient la Loire en gabarde, ces bateaux à fond plat, et s'arrêtaient sur le port d'Orléans.
Alors qu'est-ce qu'elle a de spécial cette méthode orléanaise? Parce qu'on en parle beaucoup.
Alors, comme vous le disiez, il y avait jusqu'à 400 vinaigriers au début du XXe siècle. Orléans était la capitale du vinaigre. Aujourd'hui, effectivement, notre maison est la dernière maison héritière de ce savoir-faire. Et la méthode, en fait, elle consiste à une fermentation naturelle et lente de surface sur le fût de chêne pendant 3 semaines. La fermentation acétique, c'est donc la deuxième fermentation après la fermentation alcoolique. Et c'est l'action des bactéries qui transforme l'alcool au contact de l'oxygène en acide.
Donc vous faites des vinaigres monocépages, vous faites des vinaigres d'assemblage, on en a avec du vin blanc, on en a avec du merlot, vous en faites même aromatiser au jus de cranberry. C'est infini le vinaigre aujourd'hui.
Ah oui, complètement. On peut vraiment le décliner à toutes les sauces, c'est le cas de le dire, mais pas que. En fait, c'est vraiment un élément assez important puisque c'est l'avantage d'être un exhausteur de goût et d'être, de ne pas être gras. Donc, on peut l'utiliser.
Ah, ça oui, c'est pas gras.
Énormément de.
Ça casse le gras, c'est pour ça qu'on l'aime aussi, justement. Ça vient titiller le bon gras, Olivier.
Oui, là, j'ai le vinaigre de merlot, par exemple, et c'est vrai qu'on retrouve. Alors, pas la caractéristique du merlot, ce serait très présomptueux, mais en tout cas, ces notes un petit peu de fruits rouges, de vin rouge en réalité. Et évidemment, ça n'a rien à voir avec un vinaigre de vin blanc qui, aromatiquement, est très, très différent.
Merci, David Marteron, de la maison Marteron. Martin Pourret. Vous êtes 5 dans l'entreprise, donc on peut vraiment parler de vinaigrerie artisanale. Merci David.
Merci Laurent, au revoir.
Et bon week-end et bon samedi. Alors comment faire son vinaigre à la maison? Restez avec nous, hein, Olivier Pouls va vous l'expliquer dans un instant. Et on va recevoir aussi le chef Grégory Marchand, c'est le chef du Frenchie à Paris, rue du Nil. Et je peux vous dire que la cuisine au vinaigre, c'est son truc. Une recette que vous aurez envie de refaire ce week-end, j'en suis certain. A tout de suite.
On passe à table sur Europe 1.
Il donne du peps, réveille un plat, joue les équilibristes avec son acidité. Le vinaigre a plus d'un tour dans son fût. On vous dit lequel choisir et comment l'utiliser en cuisine. Et justement, on a invité un chef qui adore le vinaigre. Il en use sans en abuser. C'est Grégory Marchand, Greg Marchand pour les intimes du restaurant Frenchie à Paris. Bonjour Grégory.
Bonjour Laurent.
Bonjour.
Merci d'être là Grégory Marchand. Vous avez cuisiné en Angleterre aux côtés de Jamie Oliver. Vous avez été son second. C'est lui d'ailleurs qui a trouvé le nom de votre restaurant à Paris d'ailleurs.
Ouais, c'est ça, le Frenchie, c'était mon surnom donné en cuisine. Ça m'a collé à la peau et du coup, bah, voilà, j'ai décidé de nommer mon restaurant après 10 ans de voyage à l'étranger entre Londres et New York. J'ai décidé de nommer mon restaurant Frenchie.
Alors les Anglais, on le sait, aiment beaucoup le vinaigre. Moi, je me souviens en voyage de classe de ma première rencontre avec les chips au vinaigre anglaise. Je n'avais jamais vu ça. C'est là-bas que vous avez eu le coup de foudre pour le vinaigre ou ça venait d'avant déjà, cet amour de l'acidulé?
J'ai toujours eu un goût prononcé pour une cuisine vivifiante, on va dire. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime beaucoup utiliser des acides dans ma cuisine. Et pour ça, on a plusieurs moyens. On a les agrumes, bien sûr, en hiver, que j'utilise beaucoup. Et puis, les vinaigres. Alors, les vinaigres sur un peu toutes ces formes. Par exemple, une échine de cochon cuit dans le vinaigre, ça va vraiment couper le gras. Alors, on connaît l'échine de cochon, ou le cochon en tout cas, cuit au vinaigre de cidre. Mais il y a aussi plein d'autres vinaigres intéressants pour ça. Et puis...
Comme le poulet au vinaigre, un petit peu.
Voilà, c'est le poulet, c'est ça, le poulet au vinaigre. Et puis, il y a aussi... utiliser ce vinaigre faire nous-mêmes nos vinaigres. Par exemple, quand ça va être la saison du sureau, on va faire mariner nos vinaigres. Alors, c'est marrant parce que moi, j'utilise beaucoup les vinaigres de Martin Pourret, justement.
Qu'on vient d'entendre,
qui est un super vinaigre avec une base de vinaigre de vin blanc. Et donc, nous, on va rajouter dedans
Nos fleurs de sureau, par exemple. Fleurs ou les baies, alors?
Les fleurs de sureau. Oui. Et puis après, on va pouvoir assaisonner nos petites asperges blanches avec ce vinaigre. Ou alors, on va mettre des gousses de vanille qu'on utilise en pâtisserie. On va récupérer les gousses et on va les mettre dans le vinaigre. On va, par exemple, assaisonner une petite salade de topinambour avec ça. Même en pâtisserie, d'ailleurs, où on va utiliser le vinaigre, par exemple, dans des confitures ou dans des préparations qui sont assez sucrées. Par exemple, la pâte de coing, on va rajouter un peu de vinaigre de coing.
Mais ça casse le gras et ça donne une petite, comme vous dites, vivacité en fait, hein, à la recette.
Exactement. Mais c'est un exhausteur de goût même. Hein.
Ça
démultiplie les goûts.
Alors, chers auditeurs, nous avons devant nous échine de porc cuisinée par Grégory Marchand, ici présent, avec des petits pois, de l'ail des ours, des morilles. Et ce vinaigre, alors quel vinaigre vous avez utilisé là?
Alors là, j'ai utilisé un vinaigre de Banyuls, un vinaigre de Rivesaltes, donc un vinaigre blanc.
Vous nous en parliez, Charlotte, tout à l'heure. Ouais.
Voilà, du domaine de Rancy. Donc ça, c'est un vinaigre avec vraiment des goûts de miel, de noix. Et donc, on va déglacer un petit peu notre poêle avec ça et cuire le vinaigre.
C'est bon.
C'est pas mal. Hein.
C'est bon. Et alors, c'est amusant parce qu'il y a beaucoup de végétal, il y a de l'ail des ours. Il y a du petit pois, il y a de l'asperge verte. Et ça ne casse pas la présence de ce végétal. On le reconnaît, il reste lisible en fait.
C'est tonique,
ça réveille tout ça. Et en plus, ce qu'on peut dire aussi avec le vinaigre Grégory Marchand, c'est qu'il ouvre l'appétit, moi je trouve. Et en plus, il fait digérer, il a des vraies vertus digestives en plus, le vinaigre dans un plat.
Et puis avec ça, une bouchée en appelle à une autre, quoi. Je veux dire, ça fait fonctionner un petit peu les glandes salivaires. Donc on va, ça va préparer en tout cas l'estomac à la digestion. Donc ça va vraiment nous donner envie de manger un petit peu plus, quoi.
Alors on vous l'a promis, la recette du vinaigre maison d'Olivier Pouls, une recette que vous pourrez refaire à la maison, chers auditeurs. Comment on fait son propre vinaigre?
Vrai, faites-le plutôt que de lâcher souvent des vinaigres industriels sans intérêt. Faites-le vous-même, ça prend un peu de temps. Donc vous investissez dans un vinaigrier, ça se trouve à peu près partout. Dedans, il faut démarrer ce qu'on appelle l'amère. C'est elle qui va permettre ensuite la transformation de l'alcool acide acétique.
C'est comme le levain pour le pain.
Exactement. Alors soit on va vous en donner un morceau, parce qu'il y a des gens qui en ont, soit vous pouvez la constituer vous-même. Ça prend quelques semaines, voire quelques mois, ça dépend des conditions. Dans votre vinaigrier, vous mettez moitié vin, moitié vinaigre. Mais vous achetez déjà un bon vinaigre bio de préférence pour qu'il ait des bactéries très actives. Vous laissez ça tranquille pendant un mois et demi, deux mois. Ça va dépendre des conditions atmosphériques, de la température, de plein de choses. La mer va démarrer. Vous le goûtez régulièrement, puis à un moment, vous aurez cette piqûre acétique, hein, le vin sera devenu du vinaigre. Vous mouillez avec un litre de bon vin. Prenez un vin le moins soufré possible, parce que le soufre dans le vin, c'est pour éviter qu'il ne se transforme justement en vinaigre, donc il ralentit un peu les choses, donc prenez un vin nature. Investissez dans un bon vin, parce qu'au meilleur est le vin, au meilleur est le vinaigre. Un mois et demi d'attente encore, et puis c'est parti.
Et là, on a un vinaigre. Vous le faites ou pas du tout, voilà, au restaurant, au Frenchy, Grégory ?
Voilà, nous, en ayant des restaurants en plein cœur de Paris, j'avoue que la taille ne nous permet pas trop. En revanche, on est copains avec plein de vignerons. Là, j'étais en voyage dans la Loire voir les copains. Et tous, ils me donnent tous leur vinaigre. Donc, je repars avec le coffre plein de vin et de vinaigre. Voilà, ça change tout, quoi.
Mais c'est ça qui est fort, parce qu'avant, en fait, dans le poulet au vinaigre, par exemple, le vinaigre, on l'utilisait pour cacher peut-être une volaille d'un peu moins bonne qualité. Alors que maintenant, en fait, c'est devenu un plus. C'est devenu un vrai ingrédient de cuisine pour apporter des goûts différents avec un vin à la base de bonne qualité.
Et on le retrouve. Moi, j'ai un plat chez vous au Frenchy To Go que vous faites à emporter, qui est un pulled pork. C'est du cochon effiloché avec de la betterave qui est confite avec du vinaigre que vous mettez à l'intérieur en garniture. C'est un mariage magnifique. Encore là, une fois, c'est acidulé et il y a de l'acidité. Merci Grégory Marchand.
Merci
d'être venu du Frenchy rue du Nil à Paris. Vous retrouverez toutes les références évidemment sur Europe 1. Et n'oubliez pas, sur la page de l'émission, vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter à table que vous retrouverez le dimanche dans votre boîte aux lettres. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec un chef adepte de la naturalité. Sa parole est rare. Il est avec nous pour vous dire ce qu'il pense de la fermeture des restaurants et puis nous parler de ses projets. C'est le chef Alain Ducasse qui se met à table dans un instant. Ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Originaire des Landes, il a été nourri au trésor de la Chalosse avant de partir en apprentissage à 16 ans. Michel Guérard, Roger Verger, Alain Chapelle l'ont initié à la grande cuisine. Il s'affranchit au fourneau du Louis XV à Monaco avant de conquérir la capitale. Depuis, il a ouvert des restaurants dans le monde entier. Il s'est lancé aussi dans le café et le chocolat. Alors depuis la fermeture des restaurants, c'est vrai que sa parole est rare. On est ravis qu'il ait choisi la table des bons vivants pour s'exprimer et nous parler de ses projets. C'est Alain Ducasse, notre invité. Bonjour Alain.
Bonjour Laurent.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Comment ça va alors? C'est la question qu'on pose à tous les chefs cuisiniers en ce moment et à tous les restaurateurs.
Tous les matins, je décide que ça va bien.
Ah.
C'est une décision du matin.
Combien de restaurants, Alain Ducasse, aujourd'hui, vous comptez?
Un certain nombre.
Et comment
un peu plus d'une vingtaine.
Voilà. Comment vous faites avec vos employés dans le monde entier? Parce que c'est quand même un truc de dingue. Toute la planète est fermée. Pour garder le lien avec vos équipes, comment ça se passe?
En visio, et on a même ouvert deux restaurants pendant cette période en visio. J'ai ouvert un bistrot à Kyoto et un restaurant de très haute gastronomie à Kyoto, ayant comme voisin une star de la cuisine Kaiseki, à côté du pont de Arashiyama, pour ceux qui connaissent le Japon, c'est assez exceptionnel. Finalement, on peut le faire, on peut ouvrir des restaurants en visio. Mais il n'y a que les Japonais, il n'y a qu'avec les Japonais qu'on peut le faire. C'est rigueur, discipline, exigence.
Voilà. Ça dit, pour faire passer des saveurs en visio, c'est quand même compliqué.
Oui, mais j'ai un chef qui travaille avec nous depuis 12 ans, qui était là-bas 6 mois avant le confinement, qui avait eu le temps de regarder. Je suis assez serein sur la qualité qu'il a délivrée sans moi, finalement, parce que je suis sûr qu'il délivre une cuisine de haute qualité.
C'est ça votre truc aussi, c'est dénicher des talents, dénicher
les
des
former,
chefs,
les
et les former, la transmission, mais depuis toujours, oui. Chez Alain Ducasse. On en parlera tout à l'heure avec le plat du jour, parce qu'il sera fait par justement un de vos nouveaux chefs. Quel est votre goût de la semaine, Alain Ducasse?
Alors, très clairement, l'amertume mixée à l'acidité. L'amertume, parce que nous allons démarrer un nouveau métier qui est glacier, et j'ai goûté un sorbet au pamplemousse rose.
Oh.
Avec un vermouth du Piémont.
Et on va les trouver où, vos glaces, alors? Vous allez vous balader avec un triporteur?
Non, je vais ouvrir une boutique juste à côté de ma manufacture de chocolat, rue de la Roquette.
Dans le 11e à Paris.
On va fabriquer dans la boutique. Voilà. Vous attendrez qu'on finisse de turbiner notre glace au café ou au chocolat ou à la vanille. Voilà, vous attendrez un quart d'heure parce que ce n'est pas prêt. De manière traditionnelle, comme j'aimais les goûter quand j'ai commencé dans le métier. Il y a déjà presque un demi-siècle, donc j'avais ce rêve de devenir glacier, et ce rêve se réalise dans quelques semaines.
Glacier, chocolatier, torréfacteur, on va parler de tous vos projets, de toutes vos belles passions dans un instant. Mais avant, on va parler du zéro gaspille et du bon sens en cuisine. Ce sont deux valeurs qui sont essentielles pour vous depuis longtemps, Alain Ducasse, en cuisine. On les retrouve d'ailleurs dans votre livre « Naturalité », ces deux valeurs. Et Charlotte, vous allez nous parler des contenants, parce qu'effectivement, le bon sens et le respect de l'environnement passent aussi par les contenants. Les fameux bocaux en verre comme nos grands-mères, hein, eh bien, ils reviennent et ils retrouvent leur place dans les cuisines des chefs et dans les cuisines des particuliers aussi.
C'est ça, après avoir mangé local, on mange bocal. Alors, vous allez me dire que l'utilisation des bocaux, c'est pas une technique de conservation nouvelle, effectivement. Pourtant, ça revient en force parce que c'est sûr, il n'y a pas d'interférence entre le contenant et le contenu, à la différence parfois du plastique. Hein. On peut y conserver les aliments très longtemps. Et puis enfin, parce que, comme vous le disiez, les chefs, les particuliers se sont emballés pour la fermentation. Hein. Alors, ça consiste à plonger un peu tout ce que vous avez sous la main dans une eau salée, dans de l'huile d'olive, dans du vinaigre, et à laisser les bactéries en faire des merveilles, citron confit, pickles de légumes, etc. C'est facile à faire chez soi. En plus, ça fait de très belles étagères en cuisine, avec des bocaux très colorés, prêts à cuisiner, à réchauffer.
C'est vrai que c'est beau. Alors, c'est aussi une des solutions choisies par les restaurateurs, en plus du click and collect, les bocaux remplis de recettes maison, effectivement.
Oui, alors jusqu'ici, c'était plutôt le domaine des grands chefs connus, hein, les confitures d'Anne-Sophie Pic, les liqueurs des Brasses, les moutardes de chez Loiseau, ou des chefs très étoilés comme Romain Médère et Alain Ducasse au Plaza Athénée, qui ont de véritables chambres de fermentation dans leur cuisine. Mais depuis la crise, les chefs sont nombreux à avoir des activités un peu hybrides hein, entre le traiteur, l'épicerie fine, le circuit court. Donc, ils proposent eux aussi leurs recettes en bocaux. Par exemple, à Lyon, vous avez un collectif de 8 chefs qui propose des confinades. Ils appellent ça des confinades. C'est des bocaux anti-gaspi faits avec, vous savez, les légumes moches, en fait.
Ah, ceux légumes qui sont cassés, oui.
Juste simplement pas calibrés pour l'agroalimentaire. Ils les récupèrent auprès des producteurs locaux d'Auvergne-Rhône-Alpes et ils en font des plats prêts à consommer. Ça s'appelle lesconfinades.com. Je vous en offre un petit.
Et il y a d'autres adresses aussi à Paris, on mettra les références sur europe1.fr. C'est votre truc ça, les bocaux comme ça fermentés, c'est ce que disait Charlotte, Alain Ducasse.
On n'en fait pas commerce, mais on utilise effectivement pour faire nos fermentations et nos conserves en général. Hein, parce qu'une truffe, si elle est bien conservée, on peut en écraser quelques lamelles pour agrémenter des plats tout au long de l'année, en fait.
C'est ça, c'est une façon de prolonger le plaisir des saisons aussi. Hein.
Exactement, vous avez des petits pickles d'oignons rouges du restaurant Ibrique, c'est un restaurant de cuisine des balcons à Paris. Vous avez aussi Nathan Hello chez Dupin qui prépare des veloutés, de la blanquette, des babas. Et puis je vous signale aussi beaucoup de chefs, c'est trois chefs de la maison des Tocs, un traiteur éthique, qui propose des recettes signatures et puis celles de leur restaurant préféré. Il y a notamment le cassoulet d'un certain David Ratchet de l'assiette, peut-être que vous connaissez.
C'est un ancien de chez Alain Ducasse.
J'ai déjeuné, écoutez, il a ouvert à côté de son restaurant un point de vente à emporter. Il est en train d'explorer des cuisines exotiques. J'y ai déjeuné samedi dans la rue, certes, mais c'était très bon et je vous le recommande. Je crois que ça s'appelle
l'arrière-cuisine.
Ouais.
C'est ça.
Vous êtes allé ?
Oui, c'est dans le 14e.
Bon.
Ouais, ouais.
Il y a une jeune coréenne qui était sa sous-chef, qui préparait, avait beaucoup de talent. Il m'a préparé une soca qui était aussi bonne que sur le marché de Nice.
Vous avez mangé dans la rue devant chez David Ratgeber. On en a pas marre de manger dans des boîtes en carton quand même.
On mange au bout des doigts. Non, c'était même pas de carton.
Non, mais on a envie de se remettre à table au restaurant quand même. Voilà, hein. Quand
la réponse est oui, dès que possible.
Quand, Alain Ducasse?
Mais très bientôt.
C'est quoi bientôt? Votre souhait, c'est quoi?
Non, je pense entre 4 et 8 semaines. Tout ça sera derrière nous. On a réouvert New York avec beaucoup de succès, puisqu'avec une autorisation à 50%, on fait 80% du chiffre d'affaires. On est beaucoup aidé par la ville. Ça y est, c'est reparti. Dès qu'on va rouvrir, ça va repartir.
La pétence
est là. Elle est acte.
Eh bien, on a hâte. On revient juste après les titres du journal de la mi-journée de Fabienne Lemoyle avec un plat du jour préparé par justement un de vos chefs, Alain Ducasse. Une sorte de paella printanière avec un riz cuit à l'étouffée de beaux légumes de printemps. Une recette de Ducasse que vous pourrez refaire à la maison ce week-end. À tout de suite.
Mais qu'est-ce que c'est bon ça.
Casser l'œuf en deux, de voir couler ce jaune, c'est de l'amour.
En fin de bouche, on est cueilli par une petite acidité.
Europe 1, 11h30.
Ça va, c'est la saison ça.
Oui,
c'est bien. J'ai eu chaud aux fesses. Hein.
La table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Babette Lemoyle, effectivement, elle a eu chaud aux fesses. On mange avec les saisons ici. Du marché à la cuisine, en passant par les arrières-cuisines de notre alimentation. On se met à table pour le meilleur du bon. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Si vous avez raté le début, vous le trouverez en vous abonnant au podcast, hein, évidemment, sur europe1.fr. Et nous voilà avec notre chef invité. Il collectionne 18 étoiles dans sa galaxie. Alain Ducasse est parmi nous. Plus, mais moi, je crois que j'en ai oublié. On est à presque à 22, c'est joli. Et vous êtes venu. Ça, je parle au Alain Ducasse chocolatier qui est venu avec de beaux chocolats. Un chocolat de couverture magnifique et un praliné à l'intérieur, enfermé dans un grand crabe en chocolat.
Ma grande passion, c'était d'importer des fèves du bout du monde, de les torréfier et de faire ma matière première avant de faire des bonbons, avant de faire mes pralinés, avant de sectionner mes pistaches, mes amandes, mes noisettes. Donc nous sommes installés au cœur de Paris. Je peux le dire, nous sommes les seuls chocolatiers artisans dans la ville de Paris.
Oui, parce que vous torréfiez les fèves vous-même. C'est vous qui êtes vraiment de bean to bar, comme on dit, hein, de la graine à la tablette.
Ça sent le chocolat jusque sur le trottoir. Ça donne qu'une envie, c'est de rentrer.
Il y a une longueur en bouche de dingue. Je me souviens, vous m'avez fait découvrir cette chocolaterie. Vous aviez les clés, vous avez ouvert le rideau de fer. C'était il y a 6 ans, ça venait à peine d'ouvrir. Et il y a un chocolat chez vous, alors il faut l'expliquer tiens, à nos auditeurs, qui est le chocolat non conché.
Les origines en fait.
C'est un chocolat croustillant avec encore la...
Avant le conchage en tout cas.
Avant le conchage, voilà, c'est ça, non conché effectivement.
Exactement, venez goûter.
Alors Alain Ducasse, les restaurants sont fermés depuis octobre, on vous a vu actif et force de proposition au début de la crise il y a un an. Vous êtes un peu discret sur le sujet depuis, on se souvient d'un échange un peu tendu avec Philippe Etchebest à la télévision chez Anne-Elisabeth Lemoine justement dans C'est à vous. Ça veut dire quoi que la défense des restaurateur, c'est aussi une guerre de chapelle dans le monde de la cuisine?
Pas du tout. Nous, on a continué à faire de la restauration. On a deux formules. Du cachez-moi, c'est l'ensemble des propositions de mes restaurants parisiens. Ça marche très bien. On a beaucoup de succès. On fait entre 200 et 300 couverts par jour. Donc
c'est ce que j'allais dire. Vous avez changé aussi votre offre. On en a parlé ici parce qu'on peut manger du Alain Ducasse pour 8-9 euros le plat. Je me souviens notamment de ce sorte de dalle de lentilles, effectivement très très relevé avec
6, 8 et 12. Le plat principal à 12 et les desserts entre 6 et 8.
Alors, on ne sait pas quand vont rouvrir les restaurants, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il s'est quand même passé quelque chose pendant cette année? Est-ce que vous envisagez de réouvrir un peu à l'endroit où vous aviez laissé les choses, ou est-ce qu'il y a eu une réflexion pendant ce confinement et on va trouver une autre offre dans le restaurant d'Alain Ducasse?
Non, on va trouver la même chose, mais peut-être qu'on continuera à avoir une livraison ou que le client pourra partir facilement avec un plat qu'il a envie de manger le lendemain. Je pense que pas grand-chose va changer.
On parlait de l'importance de l'apprentissage tout à l'heure, Alain Ducasse. Ça, c'est un élément très important pour vous. Vous avez même développé une école d'apprentissage avec Jacques Maximin, que vous avez là aussi ouverte pendant le confinement.
Oui, on a ouvert ça au mois de novembre. Nous avons aujourd'hui 220 élèves qui apprennent l'excellence de la cuisine française. Nous avons 60 passeports différents, donc ils viennent du bout du monde et ils repartiront dans le monde pour essaimer le savoir-faire et l'ADN de la cuisine française, c'est l'excellence du geste, de la juste préparation, du juste assaisonnement, de la juste cuisson, de l'harmonie entre les mets et les vins, de la hiérarchie. On y apprend tout ça, d'une pâtisserie d'excellence, du pain. Enfin, voilà. On apprend tout de la cuisine française, bien sûr, avec notre touche, avec toujours une notion de moins de gras, moins de sel, moins de sucre. On est très précautionneux de la protéine, sans sourcing, etc.
C'est ce qu'on va voir avec ce plat du jour qui arrive à l'instant dans ce studio, dans le studio Coluche à Europe 1 pour la table des bons vivants. Un plat du jour qui a été réalisé par Amaury Bouhour, qui est le chef du restaurant Alain Ducasse au Meurice à Paris. Alors là, on est en plein justement dans cet équilibre entre la céréale et puis la légumineuse et puis les légumes tout court, en fait. Alors c'est une sorte, racontez-nous, c'est une sorte de riz cuit à l'étouffée, c'est ça, avec les légumes du moment, les légumes du printemps?
Au bouillon de légumes, 98% végétal, il y a juste un peu de matière grasse. Nous sommes en train de manger la nature à pleines dents. Voilà. En plus, le printemps s'y prête.
Ah là, c'est...
Le printemps, c'est la saison que les cuisiniers adorent. Le printemps et l'automne. Moi, j'aime bien quand on arrive à l'automne avec les racines, mais toujours dans le végétal. Voilà, c'est un délice, c'est un bonheur.
Là, c'est équilibré. C'est vrai qu'on sent qu'on se fait du bien et qu'on se fait plaisir. Vous, Olivier Pouls, qui surveillez votre ligne en ce moment.
C'est parfait parce qu'il y a un beau jeu de texture aussi. On a le croquant, on a le moelleux.
C'est savoureux.
On a beaucoup de saveurs, on a beaucoup de longueur en bouche dans ce plat aussi porté par les herbes. C'est vraiment très bon.
Délicieux.
La ligne éditoriale, très clairement aujourd'hui. L'attention portée aux légumes et aux céréales, ce sont les nouvelles stars. C'est quelque chose que j'affectionne, que nous affectionnons depuis très longtemps. Mais très sincèrement, certainement que l'après-confinement, c'est l'attention portée à une meilleure nourriture, durable, éthique, je dirais éthicable. Je pense que c'est la ligne éditoriale qui va influencer le plus le renouveau.
Mais ça fait un moment que vous vantez ces valeurs-là, Alain Ducasse. Vous avez grandi, je le disais, en Chalosse, dans les Landes, avec les légumes du potager et les fruits du verger. Et vous avez eu un deuxième coup de cœur, on peut le dire, pour le végétal, quand vous avez découvert la Méditerranée.
Bien sûr, depuis... Le mois de mai 1996, je fais un menu légumes qui s'appelait les Jardins de Provence. Et de là, quand on a décidé en 2014 à Paris, au Plaza Athénée, de faire un restaurant sur le thème de la naturalité, légumes, céréales, poissons de pêche durable, on a supprimé
la viande
que je continue à servir dans mes bistrots.
Oui,
je
ne
suis pas contre la viande. Je dis il faut manger mieux, mais moins. Donc ainsi, le producteur, il trouvera sa juste rétribution parce qu'il va élever une belle bête et on en consommera moins, mais elle sera de meilleure qualité au lieu d'être dans la productivité. Enfin, c'est tout le système et l'écosystème de l'agriculture française.
Et oui, le rapport sur la loi Egalim a été remis cette semaine par Serge Papin à Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture. On revient justement sur ça, sur encore une fois, on n'y arrive pas, mais à payer l'agriculteur au juste prix, parce que là, on n'a pas pris en compte le coût des matières premières pour élever le bétail, par exemple.
Ouais. Et par contre, on a, pour une fois, on a un ministre qui sait de quoi il parle, puisqu'il a été formé à l'agriculture.
Oui, c'est un ingénieur agronome de formation, effectivement. Alain Ducasse, vous restez avec nous. Une question, tiens, avant de passer à la partie suivante. Qu'est-ce qu'on boit avec le plat d'Alain Ducasse, Olivier Pouls ?
Bah, on est dans un esprit très printanier. C'est saveurs qui nous accompagnent. J'ai envie d'un vin printanier aussi. Alors, un vin blanc, parce que les asperges, notamment très peu cuites comme ça, ramènent une petite touche végétale qui, à mon avis, vont contrarier le vin rouge, mais un vin blanc frais avec une jolie tension, quelque chose d'un petit peu vif. On pourrait aller du côté de la Loire, par exemple, avec des sauvignons qui marcheraient, à mon avis, assez bien.
Et un petit chenin, non ?
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas un petit chenin ?
Bien sec, en tout cas, bien tendu.
Alain Ducasse, c'est le vin, c'est une grande histoire d'amour. Eh bien, on va vous faire découvrir des vins choisis par Olivier Pouls dans un instant, Alain Ducasse, parce que vos 2 minutes du vin arrivent. Ne bougez pas et bonne cuisine, hein, si vous êtes en train de la faire sur Europe 1.
La table des bons vivants sur Europe 1.
Nous sommes attablés jusqu'à 12h30 avec notre invité, le chocolatier, torréfacteur, glacier et chef multi-étoilé Alain Ducasse. On le voit, on l'entend depuis midi, Alain Ducasse, la crise n'a pas altéré votre bel appétit. Est-ce que vous continuez à cuisiner à la maison ? Quand vous rentrez chez vous, est-ce qu'Alain Ducasse il se met au fourneau et qu'il se fait un bon petit plat ?
Oui, mais avant de se mettre au fourneau, il faut aller au marché pour choisir des produits. C'est d'ailleurs là que commence la clé d'un bon repas, c'est... Qu'est-ce que vous avez acheté ?
Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé dernièrement
et
vous avez
aimé ? Des asperges. Ouais. Voilà. Des asperges premières. Blanches.
Voilà. Et vous les faites comment chez vous quand vous rentrez alors ?
Épluchées en direct avec un peu d'huile d'olive, quelques noisettes de beurre, et voilà, elles vont cuire comme ça, elles vont cuire dans leur jus d'exsudation. Voilà,
un peu rôti.
Oui, point barre. Ouais. Enfin, le jus de produit, le jus de cuisson.
Et un petit copeau de parmesan par-dessus ?
Même pas rien.
Non, rien. Nature.
À la maison, je fais très attention d'enlever tout ce qui dépasse.
Madame, fais attention, c'est ça aussi, il faut faire attention.
Oui, aussi, oui.
Hein, voilà. Je me souviens d'un été où vous m'aviez reçu dans votre école de cuisine rue du Ranelagh et vous m'aviez fait une salade de tomates. Et je vous ai vu retrouver des yeux d'enfant en faisant une salade de tomates. Je vais vous dire la vérité que je fais toujours depuis, qui est une salade de tomates.
À manger et à boire, parce qu'il y a autant à manger qu'à boire. Parce que quand on a fait... Quand on a salé, quand on a laissé l'humidité de la tomate sortir de la chair de la tomate gorgée de soleil, quelques gouttes de bon vinaigre, un filet d'excellente huile d'olive, un peu de fleurs de sel, suffit largement mon bonheur, avec un peu de pain sec de la veille.
C'est ça.
Comme une panzanella. Et encore une fois, il faut d'abord trouver la bonne tomate, ce qui n'est pas si aisé.
C'est pas la saison encore, mais on va attendre encore un petit moment. Mais c'est vrai que les tomates, on est content de les retrouver aussi. Mais les saisons sont des rendez-vous. Alors rendez-vous maintenant avec vous, cher Olivier. Vous nous parlez cette semaine d'une tendance qui se développe depuis quelques années, les vins élevés en amphore. Alors de quoi s'agit-il,
tiens ? Je vous ai parlé il y a quelques semaines de l'élevage sous bois des vins qui a été très à la mode, très tendance parfois, un petit peu exagéré d'ailleurs. Et il y a une espèce de retour de ce contenant qu'est l'amphore. Là, on n'a rien inventé. Hein. Les Romains déjà élevaient leur vin en amphore. Le fût n'est arrivé que beaucoup plus tard pour des raisons notamment pratiques de transport. Et donc voilà, il y a un certain nombre de vignerons qui depuis quelques années maintenant ont remis au goût du jour cet amphore.
Alors, c'est quoi l'intérêt du vin en amphore ?
Alors, l'amphore, d'abord, c'est un contenant qui n'est pas en bois.
Neutre.
Donc, il est neutre aromatiquement. En général, ce sont des amphores en grès. Il n'y a donc pas ce marquage du goût du boisé. Mais on va aussi plus loin parce qu'il y a une influence vraisemblablement de la forme. Donc, ces amphores qui n'ont pas la forme d'un fût. Ça joue sur l'énergie du vin, sur la manière dont le vin va se nourrir, notamment de ses lies, etc. Et puis, mais ce grès aussi, il donne une petite texture au vin. Et ça, je vais l'illustrer avec une dégustation. Je vous ai apporté 2 vins.
Ah, allons-y alors.
Alors, il y en a un qui est élevé 100% en amphore, qui est le verre de droite que vous avez. C'est un Saint-Joseph. Donc, on est dans le nord de la vallée du Rhône, le domaine des Miquettes, 100% en amphore. Et vous voyez, on est vraiment sur l'éclat de ce fruit très transparent. C'est vraiment très bon. Hein. On a ce terroir de Saint-Joseph, évidemment, avec ses notes un peu florales, un petit peu épicées. Et l'amphore donne une espèce de texture au vin. On n'est pas dans le côté lisse qu'on peut avoir d'un boisé. Mmh. On a quelque chose d'un tout petit peu. Quand, vous savez, quand vous touchez une amphore, vous avez le bout de vos doigts qui. Eh bien, vous retrouvez cette texture dans le vin.
Un peu d'aspérité,
un petit peu d'aspérité. Ce qui va se fondre aussi. Et puis l'autre vin, c'est pour montrer que.
Gouléant,
c'est très gourmand en même temps. C'est très gourmand.
Ouais. Ouais. Bizarre, gouléant,
et l'autre vin nous emmène à Bordeaux. Pour montrer qu'à Bordeaux aussi, les choses bougent. On est dans l'appellation Moulis, le château Antonique, qui travaille sur beaucoup de projets, notamment sur l'agroforesterie, et qui élève une partie de son vin en amphore. Je crois qu'il y a un tiers d'amphore à peu près dans l'élevage. Et voilà, ça équilibre aussi, ça atténue le goût boisé que peut avoir le vin.
Ça coûte cher, ces vins en amphore,
Souvent, c'est Olivier. Oui. Alors souvent, c'est effectivement un peu plus cher. D'abord parce que l'achat de l'amphore en elle-même représente quand même un investissement assez important, même si ça s'amortit après quelques années. Mais souvent, ça procède d'une démarche plus globale qui va de la culture de la vigne, souvent en bio ou en biodynamie, à une recherche d'excellence. Et donc, bon, pour vous donner un exemple, ce Saint-Joseph vaut autour de 35 euros. C'est un peu plus cher que les vins de l'appellation. Mais là, le Château Antonique, lui, reste tout à fait raisonnable, puisque je pense qu'on est à moins de 15 euros. Donc, on en trouve à tous les prix. Mais pas en premier prix à 4-5 euros.
C'est merci compliqué. Olivier pour cette belle découverte des vins en amphore. On vous mettra les références. Hein, là, du cas, ça valait le coup. Hein. Vous ne regrettez pas d'être venu le plat du jour vous plaît toujours?
Ah, toujours. Mais
il a terminé. On va lui amener un deuxième plat du jour pour Alain Ducasse, s'il vous plaît.
Bon.
Ce joli riz cuit à l'étouffée avec le bouillon. Et puis les légumes de printemps,
c'est
vous mettra.
C'est simplement très bon.
C'est simplement très bon. Et on vous mettra la recette sur europe1.fr. Et restez avec nous, Alain Ducasse, parce que c'est bientôt l'heure de passer sur le grill des bons vivants. Ça va chauffer, juste après ça.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants.
Dernière partie avec notre invité Alain Ducasse, Charlotte Langrand du Journal du Dimanche est toujours avec nous et puis Olivier Pouls également. Tiens, petite citation, chers amis, les animaux se repaissent, l'homme mange, l'homme d'esprit seul sait manger. Qui a dit ça, Alain Ducasse?
Je l'ai su, mais je ne sais plus.
Bria Savarin.
Ah, oui.
Eh oui, dans sa belle physiologie du goût.
Bien sûr, physiologie du goût.
Mais c'est vrai que plus que jamais, on a besoin de se reconnecter à ce moment du repas, la commensalité, comme vous dites souvent, Alain Ducasse. Voilà, c'est vertueux pour le moral,
ça, en ce
moment.
La commensalité nourrit la paix. Je suis convaincu que des gens qui ne s'entendent pas vers le début d'un repas, à la fin du repas, ils seront les meilleurs amis du monde. Ensuite, ça reprendra. Et je pense que c'est la table nourrit la paix. Bien ça, le plus important.
La cuisine du quotidien est redevenue essentielle. On le voit, le fait maison revient en force. Alors, à défaut de l'avoir perdu pour certains, vous pensez que cette crise a redonné le goût de la cuisine aux Français, au quotidien?
Oui, puisqu'il n'y avait que les supermarchés d'ouvert pour se nourrir. Non, je pense que les Français ont cuisiné. D'ailleurs,
Bien sûr.
Confrères qui ont donné des cours depuis leur maison ont eu un énorme succès. Donc, c'est bien qu'ils se sont reconcentrer à nouveau, et c'est pas mal, ça va rester.
Bien sûr, c'est une valeur refuge, la cuisine, et puis cette transmission, ce goût de la transmission avait été un petit peu perdu, donc ça fait du bien de le retrouver. Alors, depuis le début de la crise, on voit les cuisiniers s'adapter, le goût des clients évolue aussi. Est-ce que vous pensez que le restaurant gastronomique va changer dans son visage?
Non, je pense pas. Là où nous sommes, où nous avons rouvert, il n'y a rien qui a changé, quoi. Sauf que les clients, ils ont les yeux grand ouvert en disant « Enfin, on peut revenir s'attabler, repartager. On a à New York, nous sommes à 50%. Bah, c'est comme avant. »
Vous dites là où on a rouvert, mais il y a un truc qui est incroyable, c'est qu'à côté de chez nous, à Monaco, là où vous avez un restaurant, les restaurants sont rouverts.
Oui, bien sûr.
Alors comment ça se passe là-bas, justement, avec le Covid, avec la crise?
Alors je vais raconter une chose. Je n'ai jamais fermé à New York. Je n'ai pas fermé une seule journée, puisque à New York, il y avait le droit de terrasse, y compris au mois de décembre, quand il faisait moins 10 degrés, nous sommes restés ouverts en terrasse. Nous n'avons jamais fermé. Et ils mangeaient sous des champignons.
Oui, avec les chaufferettes, oui.
On a fait au mois de décembre 50% du chiffre d'affaires en terrasse, dehors, à New York, entre 0 et moins 10 pour la plupart des jours. Il lui fallut ne jamais fermer. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas ici, de la même manière, parce que l'appétence est intacte.
Et à Monaco, alors?
Nous ne l'avons jamais fermé. Enfin, à des jeux, nous,
donc c'est quoi? Il y a plus d'espace entre les tables?
Bien sûr, oui. Mais la notion de ne pas fermer, elle est essentielle dans l'esprit du consommateur. Voilà, ça, j'ai plaidé ça, mais bon, ça n'a pas servi. C'est comme ça. Le gouvernement, nos dirigeants ont décidé de fermer. Bon, il faut respecter.
Mais beaucoup de chefs disent que le redémarrage va quand même être très compliqué. Oui, hein, psychologiquement, il va falloir s'y remettre, comme on dit. Hein.
La reprise sera plus dure. Ouais.
C'est une période où il faut réfléchir, en fait, à la fin et à la suite.
6 mois plus tard, ça va revenir.
Pas s'arrêter.
On a envie de se retrouver. On a été désocialisés. Il faut à nouveau la notion de commensalité, de partage, d'échange,
La table est certainement un des lieux civilisés de la planète, comme aime le dire mon confrère Guy Savoy. Et cela est vrai, ça va repartir, bien sûr. Tout ça sera derrière nous. Dans 6 mois, on se dira « Ah, mais tu te rappelles, il y a 6 mois, on ne pouvait pas manger. » C'est terminé, voilà. C'est une décision.
Alain Ducasse, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants et ça va chauffer. Alors un questionnaire un petit peu adapté parce que vous êtes déjà venu dans cette émission au tout début de sa création. Donc le goût de votre enfance, Alain Ducasse.
C'est pas un goût, ce sont des odeurs. C'est les odeurs du goût de la cuisine que préparait ma grand-mère. Alors des volailles de la ferme de Chalosse qui avait fait du sport.
Musclé.
La chair ne se détachait pas des os, si vous voyez ce que je veux dire.
Ce n'est pas du poulet standard de 40 jours.
Donc voilà, c'est l'odeur du goût du poulet rôti.
Le premier plat que vous avez cuisiné en apprentissage, est-ce que vous en souvenez ?
Non, ce dont je me souviens, c'est le premier plat que j'ai été obligé de faire quand je suis devenu chef. Et je dis, qu'est-ce que je vais bien faire de ce que je sais ? Donc je suis allé au marché Fortville à Cannes. J'étais un tout jeune chef à la Mandier de Mougins, qui était le deuxième restaurant de Roger Verger. Et je recevais quelques grands chefs, dont Jacques Maximin, qui se rappelle encore parfaitement du plat. J'ai acheté tous les légumes primeurs d'un marché de printemps, marché Fortville. J'avais de très beaux spaghettis dans l'économat de la Mandier à Mougins. Et j'ai préparé des légumes et des pâtes, avec un sucre et un bouillon de légumes justement réduit. Avec le vin qui allait avec, et c'était comme mon premier plat.
Comme Roger Verger, vous avez appris, comme Alain Chappelle, vous avez appris, comme Michel Guérard, vous avez appris.
Il faut que ça tombe juste.
Comme le plat du jour que vous nous avez apporté. Quelle époque auriez-vous aimé connaître en cuisine, Alain Ducasse ?
La cuisine des rois, puisque j'opère aujourd'hui Alain Ducasse au château de Versailles, qui est le gosse du château de Versailles. On s'est beaucoup inspiré, on est allé regarder dans l'histoire, très sincèrement, même si nous racontons aujourd'hui, et c'est ce que nous faisons, que 3 siècles plus tard, certainement, que les rois mangeraient comme ce qu'on propose aujourd'hui à nos clients autour des dîners royaux, certainement j'aurais aimé être là pour regarder comment ça se passait.
Quel plat d'un autre chef, par exemple, auriez-vous aimé inventer ?
Le bol au vent, certainement. Un grand bol au vent de cuisine française.
Ah, c'est bon, un bol au vent.
D'une complexité extrême. Non, mais un grand bol au vent de cuisine française.
C'est quoi ?
Ouais, c'est énormément de travail. Il faut savoir faire des quenelles, il faut savoir faire des feuilletelles, il faut savoir faire de la sauce. Voilà, j'ai un ami qui a fait toutes les recettes de mon premier livre, le grand livre de cuisine d'Anne Ducasse, et il s'est arrêté à vol-au-vent. Quand il a vu les 7 pages pour faire le vol-au-vent de grande cuisine française, il a sauté et il a fermé le livre.
Je le ferai un autre
heureusement
jour.
Heureusement que c'était à V, donc il avait déjà fait 600 recettes.
Joli. De quel ingrédient ne pouvez-vous pas vous passer, Alain Ducasse ?
D'une huile d'olive qui tombe juste. Voilà, ça va magnifier tout.
Pour qui avez-vous été le plus fier de cuisiner ?
Peut-être pour Nelson Mandela à Monaco. Parce que je trouve que le personnage a résisté à tout, il était très content.
Et le dernier plat que vous avez cuisiné, à la maison ou au restaurant, Alain Ducasse ?
C'était la semaine passée, un magnifique turbo au naturel, voilà. Avec rien d'autre qu'un turbo.
Four ou
de bonne taille.
Ou poêle ?
Au four.
Très bien.
Étuvé dans son jus. Moi j'aime bien la notion de cuire dans son élément naturel. De là, la naturalité, il n'y a pas loin.
De ne pas dénaturer. Et le mot de la fin, F-A-I-M, Alain Ducasse ?
La cuisine, pour moi, et la notion de commensalité, avec certitude, nourrit la paix sur ce monde.
Et bien là, vous avez nourri la paix à la table des bons vivants, parce que regardez comme on est bien.
Allons en paix, mes amis.
Allons en paix, mes frères et mes sœurs. Et on lève le verre. Merci Alain Ducasse d'être venu en exclusivité à cette table des bons vivants. Merci Lucie Lescourou à la rédaction en chef. Julien Amat, Alice Foss, Marion Sauveur à la rédaction. Merci Jean-Luc Arblade à la réalisation. Agnès Vaudin à la programmation. Merci Charlotte.
Merci.
À demain dans le journal du dimanche.
À demain, oui.
Salut Olivier.
Bonne semaine,
à
les amis.
À la semaine prochaine et à bientôt dans la revue du Vin de France. Et puis n'oubliez pas, ce week-end, on change d'heure. Et comme dit la fameuse chanson qui circule sur les réseaux sociaux, on va changer, on va changer d'heure. On vous la met dans la tête. Hein. Bon week-end sur Europe 1. Dans un instant, c'est Europe Midi avec Fabienne Lemoyle. Merci Alain.
Merci Laurent.